On l'a annoncé, nous allons donc entreprendre la méditation pendant ces jours, jusqu'à samedi inclus, Dieu voulant, du livre de Ruth. Le livre de Ruth n'est pas, comme quelqu'un le pensait un jour, quelque chose comme un accessoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais il a tout au contraire une place de choix. Il est tout autant nécessaire, et Dieu en a jugé ainsi, que les autres livres. Nous allons lire le commencement du chapitre premier de ce livre de Ruth. Le chapitre premier. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses deux et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Allons nous arrêter là pour l'instant. Nous avons dans le livre de Ruth le récit des circonstances tout à fait historiques, n'est-ce pas ? Ayant abouti au mariage de Ruth avec Boaz. Et la chose capitale est cela, ce mariage de Ruth avec Boaz. Nous verrons tout ce qui en découlera. Boaz était un homme considéré à Bethléem et il devint un ancêtre du roi David. Je dis « il devint », je m'expliquerai là-dessus. La fin du livre de Ruth, si vous voulez tourner la page et voir au chapitre 4, verset 18, il y a l'indication de la postérité de Pérets. Pérets, c'est le fils de Juda, le fils par lequel la filiation va passer. Alors, lisons ces versets, 18, chapitre 4. Pérets engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Amminadab. Amminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Nous avons donc ici la généalogie de David à partir de Pérets, c'est-à-dire à partir de Juda, puisque je viens de vous le dire, Pérets est le fils de Juda. Nous avons donc là ici le lien de filiation entre Juda et David. Salmon eut Rahab pour épouse et Boaz eut Ruth. Nous parlerons de ces épouses qui sont les seules à être citées. C'est là la famille lointaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que déjà nous découvrons un intérêt assez grand à l'étude de ce livre. Les détails de cette histoire ont tous leur importance, nous le verrons, et leur signification est spirituelle. Spirituelle. N'allons pas rester simplement sur le déroulement des événements, les relations, les faits, mais nous allons voir ce qu'est le dessein de Dieu, ce qu'est le plan de Dieu s'accomplissant. Une chose est spirituelle, je vous l'ai dit ce matin, lorsque elle est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette histoire de Ruth et de son mariage avec Boaz et se présente comme un roman. Il y a des gens qui sont très attirés à la lecture de ce livre très court, parce que c'est une histoire assez agréable à lire, c'est un roman vécu, mais ce n'est pas quelque douce sentimentalité qui s'en dégage, pas du tout. C'est un épisode en lequel il est utile de voir agir l'Esprit de Dieu. Le livre de Ruth est une révélation de Dieu. On y voit comment, au cours de l'histoire de son peuple, Dieu prépare la venue de son Fils, le Sauveur des hommes. Pour la préparation et la mise en place de ses desseins, Dieu s'était choisi, s'était formé, selon un mot de l'Ancien Testament, s'était formé un peuple particulier, le peuple d'Israël, et il lui avait donné un pays. Les autres peuples suivaient, eux, leurs propres penchants, quoique la présence du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, est exercée, et en tout cas l'intention de Dieu était que cette présence exerce sur la terre une influence grande par un certain comportement. Dieu aurait voulu que son peuple soit toujours fidèle et par conséquent fort, que ce soit un peuple sage, un peuple saint. Et alors il y avait bien sûr là le point de départ, la source d'une grande influence sur les autres nations. Or, au temps des juges, car le livre de Ruth se déroule au temps des juges, il y eut donc une famine. C'est ce que nous dit le commencement du chapitre premier, il y eut une famine dans le pays. Une famine dans le pays de l'Éternel, qui pourtant, habituellement, était celui de l'abondance. Ça nous fait penser, enfin je dis ça rapidement, en passant quelquefois à cette sécheresse que l'on peut rencontrer au milieu de nous dans l'Église, bien que l'Église devrait au contraire être tellement riche, tellement capable de puissance. Le pays où coulait le lait et le miel, c'est ainsi que le pays d'Israël était désigné, pays où coulait le lait et le miel, devenait soudain stérile. Là, je vous lirai dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, livre de l'Exode, chapitre 3 et verset 7. Chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Voyez comment Dieu présente lui-même le pays qu'il donne à son peuple. Mais pour que Dieu accomplisse ses promesses, je dirais soit fidèle, il est fidèle bien sûr d'une façon absolue, mais c'est notre langage qui nous fait employer ce terme qui paraît comporter des fluctuations. Et pour que Dieu soit fidèle à ses promesses, il fallait que le peuple le fût, lui, aux clauses de l'Alliance. Et c'est bien ce que nous voyons dans le Deutéronome. Je ne vais pas m'y reporter maintenant. Si tu accomplis les ordonnances, les commandements que je t'ai donnés, alors là, tu vas prospérer, tu auras une foule de bénédictions. Mais si tu n'observes pas mes commandements et n'accomplis pas les ordonnances de la loi, alors là surviennent des malédictions souvent très lourdes. Le malheur qui souvent s'abattit sur la terre d'Israël fut donc la conséquence de l'infidélité du peuple de Dieu. Alors Dieu, qui est un éducateur, qui n'abandonne jamais son dessein, ne peut alors, lorsqu'il y a infidélité du peuple, ne peut pas refaire revenir ce peuple à lui autrement qu'en lui supprimant les richesses de sa bonté ou en faisant peser sur lui un châtiment. Et la famine dont il est question ici était une malédiction que Dieu envoyait à son peuple infidèle, et c'était aussi une épreuve. Voyez-vous, dans le châtiment, il y a aussi l'épreuve. Et l'épreuve va être mal supportée par une certaine famille dont il nous est parlé là, la famille d'Élimélec. Élimélec, qui est l'époux de Naomi, qui avec elle a deux fils, Maclon, Kiljon, qui se marie, nous l'avons lu, avec deux femmes moabites, s'appelant Orpa et Ruth. Alors voici les significations qu'ont ces noms. Cela importe assez souvent dans l'Ancien Testament, parce que le nom a une portée prophétique concernant la vie de celui qui le porte. Élimélec signifie « Dieu est roi ». Naomi, c'est un nom très joli à porter, il signifie quelque chose comme « ma charmante »,« ma charmante ». Maclon, alors là, le premier fils, ce mot signifie faiblesse, maladie. Kiljon signifie destruction. Voyez, on voit, ça va très mal dans cette filiation. Les femmes, alors, leur nom, Orpa, signifie biche, et Ruth, amie, les noms féminins avaient souvent comme ça une évocation de quelque chose montrant peut-être le charme féminin. Cette famille s'en va de Bethléem et du pays de la promesse. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une famine, elle fuit la famine et s'établit dans le pays de Moab, de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Élimélec avait-il bien agi en faisant cela ? C'est lui le chef de famille. Alors, posons-nous cette question, c'est nécessaire, le Saint-Esprit a mis à notre disposition la Sainte Écriture désire que nous puissions exercer notre jugement, mais il faut faire attention. Oh, nous allons le voir dans le cours de cette étude, faire bien attention à la manière dont nous jugeons les choses. On les juge quelquefois de travers. Alors ça ne nous fait pas bien. Il faut les juger d'une façon spirituelle. Avait-il vraiment bien agi? Certainement pas. Là, nous sommes à l'aise pour répondre ainsi. En effet, il y a une famine, c'est vrai. Mais il s'en va. Il prend le parti de s'en aller. On dira humainement, bah, c'est assez sage puisqu'il a le moyen de se déplacer, il peut être accueilli dans le pays voisin, là, pays païen, alors qu'il s'en aille, bah, c'est peut-être bien. Selon la sagesse du monde, rappelez-vous cette opposition qui est faite dans 1 Corinthiens entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Selon la sagesse du monde, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas cette sagesse-là et qu'il faut écouter. Alors, il tourne le dos au pays que l'Éternel a donné au peuple d'Israël, dont il est membre. Et, d'une manière générale, on peut dire que on ne quitte pas l'Éternel, on ne quitte pas ses voies. Quitter le pays, c'était quitter les voies de l'Éternel. On ne quitte pas ses voies sans déplaire à Dieu, bien sûr, et sans qu'il y ait des conséquences dommageables. Noémie le constatera, cela. Voyons en effet le verset 13. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes fils, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. La main de l'Éternel, pourquoi la main de l'Éternel s'est-elle étendue contre elle pour non pas la bénir, mais au contraire pour faire peser sur elle le châtiment? Elle a perdu son mari et ses deux fils. Eh bien, c'est parce que, justement, il y a là une chose qui a déplu à l'Éternel. Et au verset 20 aussi, elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » La foi, la confiance en Dieu, la prière ont tout simplement fait défaut dans cette décision, pour prendre cette décision qu'a prise Élimélec, le chef de famille. Pas de foi. Quand on s'en rapporte à la raison, qui se situe dans la sagesse humaine, eh bien, évidemment, on s'écarte, on s'éloigne complètement de la confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelquefois, dans l'examen très objectif des circonstances dans lesquelles on se trouve, il n'y ait pas quelquefois là, peut-être, l'origine d'une décision qui sera bonne à prendre. Mais, de tout sens, elle ne sera prise que dans la confiance en Dieu. Il est possible que cette confiance nous guide vers une décision qui se comprend, qui se raisonne même, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, là, le sage raisonnement eût été celui-ci, Élimélec et ton épouse, eh bien, et tes fils, eh bien, vous allez rester là dans le pays d'Israël, comme notre frère le disait concernant cette famine qui a sévi du temps d'Abraham, et que Abraham a lui-même aussi très mal interprété, puisqu'il s'est enfui en Égypte. Il aurait dû dire, en effet, c'est par la volonté de Dieu que je suis là, je ne quitterai pas cet endroit. Je mourrai plus tôt, si Dieu veut que je meure, mais je ne quitterai pas cet endroit, malgré cette famine, si, à moins que Dieu ne me le dise. Et si Dieu ne me dit pas de quitter, eh bien, j'ai confiance en Dieu, il pourvoira, lui. Et en effet, si Abraham avait, et Isaac son fils, qui se trouve lui aussi devant une famine, s'ils avaient l'un et l'autre pensé de cette manière, la famine eût cessé immédiatement. Ils auraient fait cesser la famine. L'Éternel, comme aime dire le texte biblique, se serait repenti, c'est-à-dire aurait changé. Il aurait changé. Et la famine aurait immédiatement cessé. Tout membre du peuple d'Israël était devant la tâche, la mission qui incombait au peuple tout entier. Il en est ainsi pour nous, mes amis. Pouvons-nous faire, nous, quelque chose délibérément qui ne soit pas dans la ligne de notre vocation? Et notre vocation, notamment, nous place au milieu de nos frères et de nos sœurs. Elle nous incorpore au corps de Christ. Alors, pouvons-nous prendre des décisions qui vont nous éloigner, nous arracher au corps de Christ? Nous ne le pouvons pas, mes amis. Nous ne le pouvons pas parce que la mission de l'Église, nous partageons avec nos frères et nos sœurs la responsabilité de cette mission. Elle nous incombe à nous, autant qu'à l'Église tout entière. Et nous ne pouvons pas nous arracher. Voilà pourtant ce que fait la famille d'Élimélec. Voyons ce que dira David plus tard dans le premier livre de Samuel, au chapitre 26 et au verset 19. Chapitre 26 de 1 Samuel et verset 19. Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur, si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent « Va servir des dieux étrangers ». Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel, c'est-à-dire en dehors du pays. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. La puce, c'était lui. Lui qui se voyait ainsi. Mais voyez, le roi David, lui, sent bien qu'il ne peut pas être détaché de l'héritage de l'Éternel. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas être détachés du corps de Christ. Et attention, on peut l'être de différentes manières. On peut l'être en pensée, on peut l'être par les décisions que l'on prend, en s'écartant des réunions, des rassemblements, par exemple, ou simplement en pensée, en esprit, en s'écartant du travail d'ensemble qui s'opère dans l'Église. D'ailleurs, voyons que David, donc, voyait qu'ailleurs, il allait servir des faux dieux. Il allait être amené à servir des faux dieux. Eh bien, du temps de Ruth, là, du temps des juges, c'est-à-dire, eh bien, les autres pays étaient impurs. Il faut le savoir. Et Élimélec ne l'ignorait pas. Ils étaient impurs en raison de l'idolâtrie qui les infestait. Et cela, on le sait par des prophètes, les prophètes Amos, les prophètes Osée, prophètes Zacharie, prophètes Jérémie. Je ne vais pas vous lire tout cela. Cela nous attarderait dans notre étude. Mais les autres pays étaient infestés. Festé d'idolâtrie. Alors, aller dans le pays de Moab, c'est aller dans un pays qui servait les idoles, où il n'était vraiment question que... Et toute la vie était conditionnée par cette idolâtrie. Élimélec va donc se diriger vers une terre idolâtre, non pour une mission. Vous me direz, mais nous, il faut bien que nous allions au milieu du monde, et le monde est rempli d'idoles aussi. Ce n'est pas le moment de le démontrer, mais enfin, le monde est rempli d'idoles. Nous le savons bien. Mais nous pourrions nous aller vers le monde pour une mission, la mission d'évangéliser. Mais ce n'était pas le cas d'Élimélec. Il n'avait pas été chargé d'une mission. Et il y allait pour raison personnelle, pour une question de bien-être, parce qu'il n'avait pas à manger, et il voulait manger bien, il ne voulait pas souffrir de la famine, une question de bien-être, et par défaut défaut flagrant de confiance en Dieu. De plus, il y avait sur Moab une malédiction. Nous le savons par d'autres textes, il y avait une grande malédiction sur Moab. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'où vient ce peuple avec le peuple, les Ammonites. Les Ammonites et les Moabites, ce sont ces deux peuples qui sont nés de Lot et des deux filles de Lot. Après le grand événement de la destruction de Sodome et Gomorre, et ils sont nés donc dans des conditions véritablement mauvaises, on pourrait dire catastrophiques. Le dieu des Moabites s'appelait Chemosh, et il était vu comme le dieu de la fertilité. Ah, il était très honoré. Il avait d'ailleurs une femme. Les dieux avaient des femmes. Il avait une femme qui s'appelait Akhéra. Et alors, non seulement il fallait servir ce dieu, s'attendre à lui, se prosterner devant des statues, mais en plus il y avait de grands cultes à ce dieu, et dans le cours de ces cultes était pratiquée la prostitution sacrée. Et c'était véritablement cela la source d'une étrange et terrible corruption. La prostitution sacrée, n'entrons pas dans les détails, mais c'était quelque chose d'abominable. Bon, et c'est dans ce pays-là qu'un membre de Juda, de la tribu de Juda, et un membre donc du peuple d'Israël, tout simplement, va chercher sa subsistance. Il va vers une terre où le culte de la fertilité est pratiqué, et où il espérait vivre sur des ressources naturelles attribuées, constamment attribuées à ce faux dieu. Voyez-vous, il va vivre, lui, avec des produits qui sont attribués par tout le monde au faux dieu. Bon, il va peut-être pas croire, lui, cela, mais il n'empêche qu'il participe tout de même à l'idolâtrie de cette manière-là. Et souvenons-nous de ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Que Paul nous dit là, verset 14, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, fuyez. Et nous devons avoir assez de discernement pour pouvoir la fuir vraiment. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, c'est-à-dire une foule, nous formons un seul corps et nous participons tous à un même pain. Et ensuite, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Et qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ceux qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous voyez que nous ne pouvons pas, nous, et ça bien sûr c'est pour nous, c'est dans le cadre de la Nouvelle Alliance, eh bien, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, participer à n'importe quoi. Et ça, malheureusement, dans le peuple de l'Église, il y a souvent une propension qui joue facilement pour emporter des enfants de Dieu vers certains milieux, les faire participer à certaines cérémonies, etc. Et tout cela ne peut que attirer sur nous la réprobation de Dieu. Et quand je dis la réprobation, je mesure la chose. Et donc, Élimélec est véritablement coupable. si nous intéressons à lui, il est véritablement coupable. En outre, donc, le culte de Chémosh comportait la prostitution sacrée, par conséquent, engendrait vraiment une corruption à laquelle il était peut-être difficile à la longue de résister. Il se mettait, par conséquent, en difficulté. Alors, qu'arrive-t-il? Eh bien, c'est que Élimélec meurt. Élimélec meurt, ses fils épousent des femmes moabites, ils meurent aussi, et la famille ne peut plus assurer sa descendance. Alors, avant de mettre fin à notre première méditation sur le livre de Ruth, je voudrais vous dire des choses importantes sur le dessein de Dieu. Nous continuerons la méditation textuelle demain et les jours suivants, mais il faut que nous réfléchissions. Nous avons dit qu'il y avait dans ce livre le rappel d'une généalogie allant de Juda à David. Et cette généalogie, elle est Juda, Peretz, Etson, Ram, Aminadab, Nachon, Salmon, Boaz, Obed, Isaïe et David. Juda, qui est le point de départ de cette portion de la généalogie qui remonte au-dessus de la généalogie de David, Juda était le quatrième fils de Jacob. Et c'est lui, Jacob, qui avait reçu ce nom nouveau d'Israël. Et la tribu de Juda avait été désignée et reste désignée pour être celle en la descendance de laquelle naîtra le Messie. Et cela est excessivement important. Nous sommes donc ici dans le cours de cette descendance venant de Juda et qui va à David. Et Juda est donc celui, cette tribu désignée pour être celle dans laquelle apparaîtra le Messie, naîtra le Messie. Et je lis en effet dans Genèse 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh », il veut dire textuellement le paisible, le pacifique, mais exactement dans le sens de ce mot, celui à qui appartiendra le sceptre. Voyez-vous, donc c'est cela est dans la bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui le sceptre doit revenir. Et puis, nous avons dans les psaumes, le psaume 60, psaume 60, verset 9, « À moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda, mon sceptre. » Juda, mon sceptre. Et puis dans le psaume 114, verset 2, le psaume 114, verset 2, Juda devint son sanctuaire. Juda devint son sanctuaire. Non seulement le sceptre, mais le sanctuaire. On voit très bien là, n'est-ce pas, s'esquisser le Messie avec ses grands caractères. Le Messie doit donc venir de Juda. L'Épître aux Hébreux dit ceci, au chapitre 7, verset 14, « Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. » Juda est donc la tribu désignée. Vous me direz pourquoi? On pourrait peut-être essayer de comprendre, mais là n'est pas ce que nous allons faire, nous allons comprendre après Juda. Mais le Seigneur a jeté son dévolu sur cette tribu. C'est de cette tribu-là qu'il va retirer ce fils, cet homme, dans lequel s'incarnera la parole de Dieu. Quel est le plan divin? Le plan divin est de construire au sein du peuple élu une filiation filiation selon la chair, une filiation en laquelle naîtra le roi David. Là, je limite, n'est-ce pas, le plan à cette portion, le roi David d'abord, et naîtra ensuite, plus tard, son lointain fils, Jésus-Christ. Il faut, pour cela, sélectionner des hommes selon le cœur de Dieu, des hommes qui accompliront tous ses desseins. Dans le livre des Actes, nous avons en effet cela concernant David. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins. Alors, Dieu va sélectionner au cours d'une descendance. Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, la descendance par la chair joue un rôle considérable. Évidemment, quand on arrive dans la Nouvelle Alliance, alors là, Paul de nous dire, « Oh, mais ce ne sont pas tous ceux qui sont les descendants d'Abraham qui sont nécessairement ses enfants, les héritiers de la promesse. » Mais il n'empêche que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi d'une filiation. Je pourrais vous expliquer ça, mais ça nous demanderait trop de temps. Et dans le cours de cette filiation, il va opérer une sélection. Sélection des hommes selon le cœur de Dieu. Déjà, Abraham, lui, était le produit d'une sélection. Il est dit en effet de lui que, dans le livre de Néhémie, je crois, que en Abraham, Dieu avait trouvé les dispositions qui lui convenaient. Et trouvé en cet homme, lui seul, il n'y en avait pas plusieurs, il n'y a que lui, à ce moment-là. Alors, Dieu va regarder au cœur et voir ses dispositions, et il va les cultiver, comme fait un horticulteur. Le travail d'horticulteur, quand on veut avoir, par exemple, une variété d'un certain producteur de fruits, un arbre producteur de fruits, on veut avoir une variété, et alors on désire que dans cette variété apporte des qualités plus développées, des qualités plus développées, par exemple en saveur, peut-être en forme, en grosseur, en dimension, ou autrement, on désire avoir, en somme, de plus beaux fruits, et l'on opère une sélection, et l'on fait aussi des hybridations. Des hybridations. Or, chers amis, dans le livre de Ruth, nous voyons une hybridation se produire. Vous ne savez peut-être pas tout à fait ce que c'est qu'une hybridation. Vous irez consulter le dictionnaire, si vous voulez. Hein? Il vous l'expliquera tout aussi bien que moi, sinon mieux. Mais l'hybridation consiste à prendre justement un certain type, si vous voulez, et à mélanger sa semence, son pollen avec le pollen d'une autre, de la variété que l'on suit, par exemple, en vue d'une amélioration, précisément. On va faire, n'est-ce pas, là, une fusion de ces deux pollens. Et, chers amis, dans un temps où nous parlons tellement de gènes où la biologie a fait un tel bond en avant, la biologie cellulaire, c'est-à-dire qui étudie la cellule, et particulièrement le noyau de la cellule, nous savons que dans le noyau de la cellule, des cellules, il y a une certaine substance extraordinaire qu'on appelle l'ADN. L'acide désoxyribonucléique, bon, enfin, peu importe son terme. Et cet acide particulier est extraordinaire, très étudié, a été très étudié aujourd'hui. C'est une merveille. C'est lui qui est, en somme, le code génétique. C'est-à-dire, c'est lui qui porte les gènes et qui va, en somme, programmer le développement d'un germe d'abord et ensuite de l'individu qui en sort, qui est encore embryonnaire, il va se développer suivant un certain plan. Et c'est par cet ADN que les qualités vont se transmettre. Et je crois que Dieu a fait cette sélection. Et alors, laissez-moi faire une remarque rapidement. Dans notre temps si terrible, nous vivons un temps terrible, mes amis. Il se passe des choses inouïes que vous ne savez pas. Vous en savez peut-être un peu, mais pas beaucoup. Nous avons peut-être mieux. Mais des choses ignobles, des choses terribles, le diable est en train d'agir. Et depuis quelques générations déjà, on nous prépare des jeunes, et des jeunes qui maintenant ont déjà grandi, et qui sont absolument braqués contre toute foi, contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre même toute règle, toute morale, contre toute autorité. Et c'est ces générations ont procréé, sont en train de procréer elles-mêmes et de composer une humanité, mais qui est bloquée contre l'obéissance à Dieu. Et nous allons tout droit au temps de l'Antichrist, voyez-vous. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Que c'est beau cela. Voilà le plan divin. Alors, naturellement, des événements vont se mettre en travers du plan de Dieu. Le diable ne va pas laisser cette sélection divine s'opérer tranquillement. Il va se mettre en travers. J'aurai l'occasion de vous en parler concernant Judas, par exemple. On va voir comment le diable a très bien, sait très bien que Dieu a jeté son regard sur Judas. Ah, c'est de Judas que va venir le Shiloh, que va venir le Messie. Très bien. Bon, alors, en travers, je vous le montrerai, vraiment c'est manifeste, comment le diable se met en travers. Et le diable se met tellement en travers ici que Élimélec et ses deux fils, et Naomi son épouse, s'en vont à Moab. Ils ont en eux l'absence de toute confiance en Dieu, comme nous l'avons dit, de toute foi. Ils s'en vont, et ils devaient prendre place, Élimélec devait prendre place dans la descendance allant de Judas à David, et il va être éliminé, mais il va être remplacé par Boaz, et à ce moment-là, Dieu va greffer, il va se servir d'un élément étranger. Il y a deux éléments étrangers même, il y a Rahab, la prostituée, et il y a Ruth, la Moabite. Il va se servir de cet élément étranger et le greffer. Et Boaz qui n'était pas prévu pour être dans la sélection, dans la descendance allant de Judas à David, Boaz va y prendre place. Le livre de Ruth va nous montrer comment Boaz va prendre place dans cette descendance. Vous voyez, c'est très intéressant. Excessivement intéressant, n'est-ce pas, ce livre. Des éléments étrangers vont donc intervenir, Rahab à cause de sa foi, Ruth en raison aussi de son aptitude à l'exercice de la foi, son aptitude à mettre sa confiance en un Dieu même. Rahab, elle, la femme de Salmon, qui a place aussi dans cette généalogie, eh bien, Rahab, elle ne connaît pas ce Dieu des Israélites dont elle a entendu parler, mais elle est la seule à Jéricho à s'attacher à ce qu'elle a entendu de ce Dieu. Elle croit, et c'est sa confiance s'oriente là. C'est magnifique. Voilà un élément intéressant. Elle a beau être avoir sur le plan moral un passé qui est peut-être douteux, peut-être, qui nous étonne, n'est-ce pas ? Eh bien non, mais ce qui importe, c'est sa foi, c'est cette aptitude à la confiance. Peu importe ce que nous avons été, mes amis, nous, les uns et les autres, nous avons pu nous traîner, nous avons pu être ignobles, Ce n'est pas ça que Dieu regarde maintenant. C'est la foi de notre cœur. C'est la confiance que nous lui apportons. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça qu'il veut trouver en nous, mes amis. Et c'est comme ça qu'il va nous conduire. Et c'est comme ça qu'il va nous donner une place dans le corps de Christ, qu'il va nous utiliser dans le témoignage. C'est à cause de ça. Tant pis, mais tant pis, je dirais, mais ça n'a plus aucune importance. Il nous a lavé, il a oublié nos péchés, c'est fini, il nous a transformés. Il aime peut-être mieux quelqu'un qui, pendant des années, s'est vautré dans le péché, dans la souillure. Il aime peut-être mieux celui-là que l'autre, qui aurait vécu peut-être au gré de la morale courante, aurait vécu d'une façon assez régulière et, semble-t-il, assez sage, mais qui, lui, n'aurait aucune aptitude à la foi. Il aime mieux celui qui est venu de très bas, celui qui l'a retiré de la tourbe, il aime mieux celui-là, si celui-là a justement dans le cœur un élan magnifique de foi, et s'il sait avec amour s'attacher à son Dieu. Voilà ce que nous avons à voir, voyez, dans ce livre de Ruth, voyez, qu'il est d'une grande utilité, qu'il porte une grande leçon pour nous, que le Seigneur nous donne de la retenir et de la recueillir dans notre cœur. Amen.